franceinter.fr.
Lorsque la génétique des populations animales nous permet de mieux comprendre l'histoire de la domestication, eh bien c'est à la une de la science aujourd'hui avec les anciens chevaux des peuples scythes.
Il y a plus de 2000 ans, les steppes d'Asie centrale résonnaient du galop de cavaliers nomades réputés sanguinaires, les scythes. Qui sont ces guerriers redoutés ?
Et qui sont leurs chevaux, car c'est à travers l'ADN de leurs chevaux justement que vous regardez aujourd'hui ces anciens peuples du Kazakhstan. Ludovic Orlando, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes directeur de recherche au laboratoire CNRS Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse. Et vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle du Danemark, vous êtes en ligne. Et vous êtes coordinateur de cette étude parue aujourd'hui dans la revue Science. Pourquoi, Ludovic Orlando, les chevaux des peuples scythes sont-ils intéressants quand on s'intéresse à l'histoire de la domestication équestre?
Alors pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que les scythes étaient eux-mêmes un peuple fascinant. Donc si on veut comprendre comment les scythes vivaient, quels étaient leurs modes de vie, cela passe aussi par la compréhension de leur interaction avec la faune et en particulier vers l'animal qui était le plus important pour eux, qui était le cheval.
Oui, la zone géographique des scythes pour bien comprendre de quoi on parle.
Donc on s'étend sur un territoire qui part aux environs de l'Ukraine jusqu'au contrefort de l'Altaï en passant par les steppes d'Asie centrale, donc y compris le Kazakhstan. Et en particulier dans cette étude, on s'est intéressé essentiellement à des scythes archéologiques qui étaient présents dans la République de Touva aujourd'hui, au nord de la Mongolie et au Kazakhstan oriental.
Alors vous l'avez dit, les scythes étaient très proches de leurs chevaux, les grands guerriers se faisaient même enterrer avec leurs montures. Est-ce que c'est pour ça que vous avez pu avoir accès à autant d'ADN ?
Exactement, donc dans ces constructions funéraires qui sont appelées des kourganes, en fait on retrouve non seulement le cercueil des membres de l'élite, les grands guerriers que vous mentionnez, mais très souvent ils sacrifiaient beaucoup de chevaux pour célébrer le défunt, et en particulier ici dans un site qu'on a étudié qui était le site de Berel au Kazakhstan, ils avaient sacrifié une quinzaine de chevaux qui étaient conservés comme congelés depuis 2300 ans en fait, et comme l'ADN était conservé ainsi que les restes des chevaux, ça a été relativement facile pour nous d'utiliser des techniques de pointe en génomique moléculaire pour séquencer l'ensemble de génome de ces individus.
Et qu'est-ce qui vous intéresse alors dans l'ADN de ces chevaux scythes ?
Alors, donc comme je le disais tout d'abord, quel type de chevaux les scythes étaient capables d'ingénérer est une question intéressante pour nous, parce que on peut très bien imaginer que les peuples du passé étaient homogènes vis-à-vis de leur utilisation du cheval, ou au contraire très hétérogènes. Et peut-être que cette hétérogénéité expliquait des différences culturelles, mais aussi des différences de pouvoir entre les différentes peuplades passées. Mais surtout, comme ils vivaient il y a environ 2500 ans, on se situe à peu près à mi-chemin dans l'histoire de la domestication, qui elle a commencé il y a 5000 à 5500 ans. Donc si vous voulez comprendre en fait comment la domestication du cheval a commencé, c'est assez difficile de le faire depuis maintenant, parce qu'il y a eu 5000 ans qui se sont écoulés, mais c'est beaucoup plus facile à faire si vous remontez le temps directement par l'ADN et que vous vous situez dans une zone temporelle qui est un peu plus proche du début de la domestication. Et donc c'était pour ça que c'est très important pour nous de pouvoir prendre un point à mi-chemin pour savoir ce qui s'est d'abord passé dans un premier temps, dans la première période de la domestication, dans les trois premiers millénaires si vous voulez, puis ensuite, qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on regarde aujourd'hui un cheval, en fait, à quel point ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il reste de l'héritage scythe? Qu'est-ce qu'il reste du début de la domestication, en quelque sorte?
Et ben alors, du coup, concrètement, quelle différence entre les chevaux scythes et les chevaux d'élevage actuels?
Alors, beaucoup de différences. Nous avons pu trouver que aujourd'hui, vous pouvez voir des chevaux baies, des chevaux noisettes, des chevaux à taches, des chevaux à pelage dilué. Toutes ces couleurs-là étaient déjà présentes dans les chevaux scythes. Donc, cette diversité de couleurs, cette diversité de formes existait déjà. De même, il y a des gènes qui, aujourd'hui, selon leurs variants, permettent aux chevaux de courir des sprints très, très, très rapidement, notamment ceux que portent les chevaux de course anglais, par exemple, ou le sel français. Ces variants-là géniques étaient pour certains présents déjà chez les chevaux scythes, donc ça veut dire, mais pas chez tous les individus, ce qui veut dire que ces chevaux étaient capables à la fois de capacité de sprint très forte, mais également d'une capacité d'endurance très forte, donc ce qui nous dit directement que les scythes eux-mêmes étaient des éleveurs qui privilégiaient une diversité d'allures, si vous voulez. Mais on a trouvé aussi que les chevaux de l'époque étaient beaucoup plus divers génétiquement que les chevaux actuels. En réalité, la population de l'époque sapiens semble avoir été plus préservé d'une certaine manière quant à son potentiel génétique. Et la démonstration la plus forte était surtout sur les mâles, en fait, sur les étalons, qui aujourd'hui, d'un point de vue génétique, sur leur chromosome Y, se ressemblent tous, et comme si c'était comme s'ils dérivaient tous d'un même ancêtre, alors qu'à l'époque, il y avait toute une diversité de chromosomes Y en place dans les populations.
Mais ça veut dire quoi, Ludovic Orlando ? Ça veut dire que les Scythes, justement, à cette époque, avaient une connaissance de la génétique sans même connaître l'ADN ?
Alors, une connaissance de la génétique, je n'irai pas jusque-là, puisque, comme vous le savez, hein, ça c'est une invention de la première moitié du XXe siècle, la génétique, mais par contre, ça veut dire que par leur intuition, par leur relation au monde, par leur observation au monde, ils ont su développer un art équestre qui, indépendamment de l'absence de la connaissance génétique, était capable de préserver une grande diversité au sein de leur troupeau. Donc ça, c'est en fait, si vous regardez les structures naturelles des troupeaux de chevaux, qui sont des troupeaux en harem essentiellement, où il y a un individu dominant, puis des juments ainsi que leurs descendants, eh bien peut-être que les Scythes ont calqué quelque chose sur ce modèle naturel-là pour permettre au mieux de conserver l'état naturel des populations qu'ils domestiquaient.
Étonnant, oui.
Si on comprend bien ce que vous dites, c'est l'élevage actuel participe à une érosion plus grande de la diversité animale domestique que l'élevage des Scythes ?
Alors, effectivement, ce qu'on montre, c'est que la diversité génétique à l'échelle du génome total, hein, non pas quelques gènes, mais du génome total, la diversité du génome des Scythes, des chevaux des Scythes était beaucoup plus grande il y a 2300 ans qu'elle ne l'est maintenant. Donc la conséquence de ça, c'est que dans les deux derniers milliers d'années, il y a eu une perte, un effondrement de la diversité génétique. Et alors la cause de ça est encore inconnue, mais on peut imaginer que nos pratiques plutôt intensives d'élevage n'ont pas contribué à maintenir la plus grande diversité possible dans ces populations-là.
Et les effets, du coup, d'une perte de diversité génétique, ça donne quoi ?
Alors, il se trouve que cette perte de diversité génétique, elle est paradoxalement associée en même temps, et c'est là où le bât blesse, elle est associée en même temps à une accumulation de mutations d'un type particulier, qui sont des mutations qu'on appelle, nous, généticiens, délétères, donc des mutations qui, quand vous les portez, vous incapacitent à faire certaines fonctions, par exemple, vous reproduire correctement, ou alors votre capacité de survie est menacée. Donc, en même temps qu'il y a eu une érosion de la diversité génétique, il y a eu une sorte d'enrichissement en mutations d'un type délétère. Ce qui est en fait la double mauvaise équation, si vous voulez. Donc, les conséquences sont que les chevaux actuels portent un fardeau génétique plus grand qu'il n'était alors, et ça leur donne des risques plus importants de développer des maladies d'ordre génétique.
Est-ce que ce constat de l'érosion de la biodiversité, on peut l'étendre à tous les animaux domestiques ?
Alors, il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du coût de la domestication, qui dit précisément ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que dès lors que on domestique le monde animal, ça passe par un effondrement des populations d'un point de vue démographique. Et à cause de ça, une des conséquences génétiques, c'est que le génome se fait envahir en quelque sorte par des mutations d'un type délétère. Et il y a des évidences qui montrent que, en effet, ça a été prouvé ça chez le chien, ça a été prouvé chez d'autres animaux domestiques. Donc, cette hypothèse semble être relativement consensuelle. Nous, ce que l'on montre dans notre travail, c'est que bien qu'on peut cautionner cette hypothèse prévoyait que l'accumulation des mutations délétères se ferait dès lors que l'on commençait un phénomène domesticatoire. Or, nous, ce qu'on a montré, c'est que les Scythes, pendant 3000 ans, donc 3000 ans après avoir domestiqué le cheval, eh bien leur génome n'était toujours pas envahi par ces mutations délétères. Donc ça veut dire que la domestication en soi n'est pas la contrainte qui fait que le génome va inexorablement s'enrichir en mutations délétères. En réalité, il est tout à fait possible de coexister avec l'animal sans pour autant contraindre et diminuer les chances de survie de l'animal à terme.
Bon, on va dire vive la diversité génétique alors, Ludovic Orlando. C'est peut-être valable pour les humains d'ailleurs aussi. Hein. Vive le métissage. Merci en tout cas pour votre éclairage avec cette publication qui vient de paraître dans la revue Science. Merci Ludovic Orlando. Et Axel, passe un bon week-end.
Bon week-end.
On se retrouve lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Une nouvelle méthode pour traquer nos ancêtres du passé à même le sol. Une équipe de paléontologues espagnols montre qu'il est possible d'extraire de l'ADN humain directement dans les sols des grottes anciennement habitées, même lorsque celles-ci ne contiennent pas de squelettes fossiles. Ils sont parvenus à mettre en évidence de l'ADN humain et animal dans plusieurs grottes de toute l'Europe avec seulement quelques échantillons de sédiments. Un espoir important pour déterminer les différentes époques d'occupation du territoire par par différents groupes d'ancêtres et donc une avancée significative pour le domaine. La grenade, ce fruit, contient une molécule qui peut aider à décrasser les cellules et lutter contre le vieillissement. Découverte en 2016, l'urolithine A permettrait de restaurer un bon nettoyage des usines à énergie de nos cellules, que sont les mitochondries, et ralentir ainsi la perte d'efficacité musculaire. Testée avec succès pendant 4 semaines par des chercheurs suisses sur des volontaires, 250 mg de cette molécule administrée quotidiennement a permis d'augmenter significativement l'activité mitochondriale et la fonction musculaire, et cela sans effet secondaire. Alors attention, ne vous rouez pas pour autant chez votre primeur, car selon une autre étude, tout le monde ne possède pas les bactéries intestinales capables de transformer les tanins de la grenade en urolithine A. Et puis pour terminer, suite dans l'affaire de plagiat qui vise le physicien français Étienne Klein, selon le magazine Science et Avenir, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a pris la décision de mettre fin aux fonctions d'Étienne Klein en tant que président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Un décret publié aujourd'hui au journal officiel, signé du président de la République. Une décision qui fait suite aux accusations de plagiat littéraire et scientifique diffusées en novembre par le magazine L'Express.